Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en public, public masqué, public plumé, public adoré, public libéré, pour un masque et la plume consacré au théâtre de l'Alliance française, à l'actualité estivale du cinéma avec la merveilleuse Charlotte Lipinska de Vogue, le merveilleux Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et d'une heure en série qui reprend la semaine prochaine.
Absolument.
Si je ne m'abuse, le samedi soir.
Le samedi soir à
20h. Est-ce que je dois dire avec le merveilleux Eric Neuhoff, je vais avoir encore des ennuis avec les auditeurs. Du Figaro et avec le merveilleux Pierrot, Pierre Murat de Télérama. On parle aujourd'hui de belles filles, de famille, romance, de voir le jour, de mignonne, de la femme des steppes, le flic et l'œuf, de The Perfect Candidate et d'une réédition 25 ans après sa sortie. C'est La haine de Mathieu Kassovitz. Dans le courrier de la semaine, les auditeurs ont dans leur majorité été très touchés par Été 85 de François Ozon, sorti, je vous le rappelle, le 14 juillet dernier pour Bernadette Chabert. C'est une perle rare pour Arnaud Sanquer. Le Ozon coquin, malin, ludique, celui que j'aime le plus est enfin de retour. Été 85 est un grand film sur l'adolescence. À mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte, ajoute Cathy Marnier de Nogent, les deux garçons sont filmés avec une grâce et une simplicité qui manquent souvent aux films sur les amours adolescentes. S'y mêlent une étrangeté et un goût de l'absolu qui fait de ce film un très grand film. Pour Michael Moretti de Lyon, Été 85 est le 8,5 d'Ozon, allusion évidemment au film de Fellini. En revanche, Raphaël, qui a 17 ans, qui habite Toulouse, nous a trouvé trop indulgent. J'aime beaucoup l'esthétique, la mise en scène élégante, mais le film est empesé par une construction en flashback et par la voix off qui surligne tout, ce que nous dit aussi Pierre Cusor, qui juge que l'histoire est très belle et les deux acteurs principaux fantastiques, mais il y a trop de maniérisme et la voix off est redondante avec ce que l'on voit. Je regrette, ajoute Pierre Cusor, le film que Xavier Dolan ne fera jamais de ce roman. Sinon, Thierry Bruyère de Monistrol-sur-Loire et beaucoup d'autres auditeurs pensent que Le Masque est complètement passé à côté d'un des plus beaux films de l'année, qui est Madré de Rodrigo Sorogoyen, avec une actrice magnifique, Marta Nieto, d'une humanité rare et bien supérieure dans tous les domaines à la coquille vide qu'est The Climb. Mais on avait été si dur que ça avec Madré, j'ai pas le souvenir.
On n'avait pas été très tendre.
Pas très tendre. Bon, Jean-Louis Scholtus, puis il n'est pas le seul, estime en accord avec Le Masque que Flash Gordon est une bouse, un navet d'une hideur absolue. Et ils ont tous adoré, voilà, qu'on porte au pinacle ce nanar XXL. Et enfin, François Artigas de Paris nous apostrophe, cher Masque, depuis le 1er août, tu es devenu enfin obligatoire. Merci pour cette très bonne nouvelle. Bonne continuation et longue vie à ton émission. Mais moi, je pensais que bien avant la mesure, Le Masque était déjà obligatoire, en tout cas, le dimanche soir à 20h, mais aussi pendant l'été, vous le savez, le samedi matin à 10h. Et on commence avec une ressortie en copie remasterisée, c'était le 5 août dernier, de La haine de Mathieu Kassovitz. C'est un film en noir et blanc, donc qui a déjà 25 ans d'âge, avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Tagmaoui, Benoît Magimel, et quelques petits rôles que personnellement j'avais oubliés. Valéria Brunité Deschi en mendiante dans le métro, Karine Viard, croisée dans une galerie d'art, Vincent Ladon, Ivre mort. Un film inspiré du meurtre en 1993 de Macomé Povolé par un inspecteur de police. Le film décrit donc la guerre que se livrent les flics et les jeunes de la cité, des Muguet à Chanteloup-les-Vignes, et puis la virée dans Paris de Vince, Hubert et Saïd, qui veulent venger leur copain Abdel, tombé dans le coma après une garde à vue. En 1995, La haine avait reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Moi, j'ai pas oublié la montée des marches de l'équipe, où tous les flics en uniforme qui était sur les côtés, on tournait le dos ostensiblement à l'équipe de Kassovitz. Et puis ensuite, le César du meilleur film. Et puis, il avait récolté 2 millions de spectateurs en France, ce qui était énorme. Ce qui est plus énorme, c'est ce que j'ai lu ici et là, c'est qu'on annonce maintenant une prochaine version de La Haine, mais en comédie musicale. Ça me laisse un peu sceptique, mais bon.
Par Xavier Dolan ?
Non, mais Kassovitz l'a lui-même d'ailleurs annoncé sans donner de date. Xavier ?
Ça ne peut pas être plus embarrassant que de revoir La Haine 25 ans après sa sortie. C'est terrible.
Alors, pourquoi tu dis ça?
Tout ce que je vais dire, c'est contredit par le succès de cette réédition qui a fait plus de 20 000 spectateurs, je crois, à la première semaine. Absolument. Donc voilà, tout le monde se presse à nouveau pour voir cette espèce de peau très pourrie quand même, d'une vision sur la banlieue qui, je trouve, est totalement frelatée, totalement encombrée par une mise en scène tape à l'œil qui veut constamment marquer son territoire et sa petite domination. Alors certes, il y a un sujet, évidemment, qu'il traite quand il a le temps, parce qu'on se tape quand même un nombre de dialogues et de monologues parfois totalement superfétatoires et inutiles. Le gamin qui nous raconte avec un travelling avant pendant 10 minutes l'émission de caméra cachée qu'il a vue la veille, je ne vois pas le rapport avec la violence dans les banlieues et tout le film est constamment perturbé par ce genre de choses. Mais Pierre, tu vas t'expliquer dans 2 minutes, mais je trouve que...
J'ai rien dit.
Mais oui, non, mais tu dodelines de la tête. Alors certes, c'est à radio et personne
ne voit. C'est la guerre des gants, déjà.
C'est terrible, je trouve que c'est vraiment le film, je vais être très méchant, d'un petit bourgeois qui veut se faire un nom et qui va emprunter comme ça un sujet fort, qui va faire croire que le film est fort. Et en fait, quand on le regarde dans le détail, il n'est pas tant que ça. Il effleure vraiment la surface du fait divers. Il est assez peu intéressant sur le plan sociétal et sur le plan du sujet qu'il veut traiter, qui est la violence policière.
Dans le genre, c'est un des premiers quand même.
C'était
d'accord.
Un des premiers. Enfin, il y avait Ma Cité va craquer. Il y avait eu quand même des choses aussi qui avaient été faites. Brissot avait fait aussi un film là-dessus. Donc, on n'est pas, le mec veut, voilà, Kassovitz veut montrer qu'il sait filmer. Alors, il filme pas grand chose d'ailleurs, c'est toujours plus la caméra qui filme à sa place parce que ça manque vraiment d'un regard. Et d'un...
Oh non, mais non, Xavier, non, mais c'est quand même extrêmement mis en scène. Je veux dire, les plans sont composés.
Mais comme n'importe quel clip de
Charlotte,
l'époque,
parce que Charlotte. Tu prends la parole, tu peux la garder.
Mais, alors, jusqu'ici, tout allait bien. Merci, c'est Xavier. Moi, j'étais très curieuse de revoir le film parce que finalement, il ne correspond pas du tout aux souvenirs que j'en avais gardés. Quand je l'avais vu, c'était du reste à Cannes, j'avais le sentiment que j'avais vu un film extrêmement nerveux, bouillonnant, avec beaucoup de musique de rap. Et en fait, pas du tout. J'avais oublié à quel point le film est extrêmement composé avec un rythme syncopé que je trouve très fort, à savoir qu'il y a des accélérations de l'action et puis après des temps de latence. Il y a même des plans où effectivement, comme dit Xavier, il ne se passe rien, mais que moi je trouve extrêmement beau. Les personnages sont là, désœuvrés, ils ont rien à foutre. Et ben, on les filme dans leur quotidien. Et ce film a un effet de montagne russe où l'accumulation des petites rancœurs, des petites humiliations et de ce qui va leur arriver au fur et à mesure de cette errance dans la nuit parisienne qui s'avance vers une abstraction, c'est-à-dire que plus le film avance, plus les rues sont désertes, les gares sont désertes. Enfin, moi, je pensais même parfois à des films de Blier, tellement on est dans quelque chose de totalement abstrait sur la dernière partie du film.
Sans l'humour de Blier.
Alors, sans l'humour, mais avec un humour quand même, parce qu'il y a énormément d'humour dans les dialogues. Certes, ils s'insultent tout le temps, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'humour même presque dans le casting. Je veux dire, mettre Bernie Bonvoisin en flic, le chanteur de Trust, c'est un clin d'œil plutôt rigolo. Kassovitz lui-même, qui joue un petit nazillon, un skin. Ouais, il y a des espèces de clins d'œil comme ça, assez drôles.
Un peu facile, et... tout ça.
Non, donc
je me permets de faire
je trouve
chose,
pas, vas-y, interromps-moi. Hein.
Mais tout ça, je trouve quand même que c'est du tape à l'œil, ouais, c'est des petits clins d'œil un peu gratuits. La preuve que le film est inopérant, c'est qu'il a plein de stars qui viennent faire un petit coucou comme ça derrière, devant la caméra. Ça prouve bien que le film.
Mais c'était pas à l'époque, c'était pas des stars. Karine Viard, elle était pas star à l'époque.
Bah, Vincent Lindon, 95, un tout petit peu quand même.
Lindon, oui. Un petit peu, mais c'est des petits clins d'œil, c'est pas grave. Et par ailleurs, on n'a pas parlé des trois acteurs, effectivement, quand même, Saïd Tagmaoui, Hubert Koundé et Vincent Cassel, ils sont déments. Dans le film, c'est à l'époque il y a une nouvelle génération d'acteurs qui explose avec ce film et on les a retenus.
Pierre,
moi j'ai eu vraiment un choc en le revoyant, mais un double choc et pessimiste quoi en quelque sorte, parce que d'une part quand même ce film, vous l'avez dit, ça fait 25 ans qu'il a été tourné, il montrait il y a 25 ans une situation qui est absolument rester
absolument
la même,
ça c'est vrai.
Ah non, je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas le problème de la religion. Là, c'est un juif, un arabe et un noir qui sont copains. À aucun moment, il y a un problème identitaire et communautaire.
Non, Charlotte, permets pas.
C'est un constat. Ce qu'il voulait dire quand même, Kassovitz, c'était un constat sur ce qui allait arriver. Et je constate, moi, que 25 ans après, rien n'a été fait, ni les hommes politiques, ni personne n'a fait en sorte que quelque chose soit fait sur ça. Donc, Premier choc, un peu pessimiste. Et deuxième choc pessimiste, c'est quand même sur le cinéma, c'est qu'il y a 25 ans, on faisait du cinéma. Alors je suis d'accord, Xavier.
Ça veut dire quoi, ça?
Eh ben, que par exemple, par rapport à un film récent qui
s'appelle... On en fait plus du cinéma, tu veux dire?
C'est-à-dire que sur un sujet à peu près identique, il y a un film qui a connu à peu près le même succès comparable, qui s'appelle Les Misérables.
Ah oui, de l'Adjli, qui est formidable.
Et bien, à côté de La Haine, je trouve que Les Misérables, c'est un mauvais documentaire, en quelque sorte. Tandis que là, c'est vraiment du cinéma, c'est-à-dire qu'on peut détester la mise en scène de Kassovitz. Et je suis d'accord qu'il y a des scènes totalement loupées, comme par exemple l'arrivée des trois à Paris dans la galerie d'art avec Karine Viard, c'est pas bien. Mais par exemple, la séquence avec Astérix, c'est formidable. Et donc, il y avait du cinéma. Et je trouve que 25 ans après, rien n'a été fait politiquement, et le cinéma français de ce type-là est devenu beaucoup plus mièvre.
Éric.
C'était le bon vieux temps, hein, quand on voit ça. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est presque Mon curé chez les nudistes. C'est un film mignon. C'est un noir et blanc très chiadé. Je suis assez d'accord avec Xavier parce que c'est un film assez agaçant de petits malins qui se regardent tout le temps en train de filmer en disant « Vous allez voir comme je suis gonflé d'aborder un sujet pareil. » Mais cela dit, c'est le meilleur film de Kassovitz. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il a jamais rien fait de bien après. Mais,
mais ça, c'est bien, par contre.
Oh non, c'est pas si bien que ça. C'est un peu United Color of Benetton, comme disait Charlotte. Il y a le juif, le noir, l'arabe.
T'as pas dit ça, Charlotte?
Oui, enfin, j'ai pas utilisé cette expression.
Non, mais moi je l'utilise parce que tout est réuni. C'est bourré de clins d'œil à Taxi Driver, à Scarface avec l'affiche qui dit le monde est à vous, la Tour Eiffel qui s'éteint comme dans Un monde sans pitié.
Mais en disant d'ailleurs, ça ne marche qu'au cinéma.
Et je trouve que vous dites que c'est un rythme fou, à part la musique qui vous tape dans les oreilles. C'est un film très statique qui n'avance pas. Il ne se passe rien. Et la fin est débile. C'est vraiment un truc, à part la révélation de Cassel là-dedans.
Elle n'est pas du tout débile, Eric, enfin.
C'est très faiblard. Ça se veut intelligent et presque surréaliste. À un moment donné, il y a une vache qui passe, là, au milieu des barres d'immeubles. On ne sait pas pourquoi, mais il aurait pu en faire quelque chose. Et tout est comme ça.
Il en fait quelque chose, c'est les lions de Vince.
Je regarde avec nostalgie les racailles qui portaient gentiment des casquettes de baseball à l'envers, qui se traitaient de bâtards, qui étaient affrontés à des CRS, parce qu'on n'appelle plus ça des CRS maintenant, je ne sais pas. On ne peut pas traiter de SS, la BAC, parce que BAC, SS, ça ne va pas du tout. Ça fait, j'ai été recalé à mon examen.
Je ne pensais pas créer un tel débat en inscrivant cette réédition de La Haine de Mathieu Kassovitz, qui est ressortie, remasterisée le 5 août dernier, et qui, comme le disait Xavier, a connu un vrai succès. On reste dans une cité, en tout cas, avec un film que j'aime beaucoup, qui est un premier film, qui est assez provocant d'ailleurs, qui s'appelle Mignonne, film qui a été primé à Sundance, d'une cinéaste franco-sénégalaise, Mamouna Doucouré, dont le court-métrage, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Maman, oui, avait reçu un César très légitime en 2017. Et c'est le portrait à la fois touchant, sensible, et d'une petite amie de 11 ans, d'origine sénégalaise, c'est Fatia Youssouf, qui débarque dans une cité avec sa mère, et malgré sa timidité, j'allais dire presque sa pudeur, intègre un groupe de 4 préadolescentes qui se font appeler les Mignonnes, vraiment préadolescentes, hein, pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, et qui pratiquent une danse ultra sensuelle, ultra provocante, que danse parfois d'ailleurs Charlotte, qui est le twerk, qui est un mélange de twist et de jerk, et surtout qui est, comment dire, qui est très très osé, et c'est une manière pour la petite amie de s'affirmer et aussi de se révolter contre son père, qui annonce, ça sera la fin du film, son retour du bled avec sa deuxième épouse. Je ne connaissais pas le twerk, je l'avoue, mais j'ai été très frappée par ce film. Charlotte.
Oui, c'est vraiment une réussite. Et alors, c'est très intéressant parce que Maman, ce court-métrage donc, qui avait eu le César en 2017, partait du même nœud qu'on sait autobiographique de Mamouna Doucouré, elle ne s'en cache pas. Et c'était déjà un court-métrage filmé à hauteur d'enfant d'une petite fille franco-sénégalaise qui a beaucoup de mal à accepter la polygamie de son père. Mais ce qui est intéressant, c'est que le court-métrage allait dans une voie presque de thriller et extrêmement noir, alors que celui-là, pour s'en échapper, a quelque chose de beaucoup beaucoup plus joyeux, une énergie assez galvanisante. Et là où je trouve le film très sensible, délicat et assez malin, c'est que entre la rigueur religieuse dans laquelle est élevée cette petite fille d'un côté et de l'autre ce twerk, c'est-à-dire des poses extrêmement provocantes, c'est une hypersexualisation des corps, ce qui est
encore
quand même...
Encore une fois, des gamines. Hein,
oui, des gamines de petites filles de 11 ans. Entre ces deux extrêmes, cette petite amie va naviguer sans parvenir à choisir et sans que la réalisatrice non plus ne condamne l'un au profit de l'autre. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est dans cette zone grise entre les deux, avec cette question centrale de comment elle va devenir une jeune femme, puis une femme. Et puis alors, le film est quand même porté par le tempérament des gamines. Elles sont complètement démentes.
Les cinq.
Parce qu'effectivement, Jérôme, tu citais Fatia Youssouf, qui est de tous les plans, toutes les scènes, qui dégage une émotion incroyable pour une petite fille de 11 ans. Mais ses copines, les mignonnes, qui sont des danseuses incroyables, sont aussi d'une véracité dans le jeu, d'une justesse.
Et d'une audace.
Et voilà, et c'est très audacieux. Donc vraiment, moi, je le recommande.
Pierre.
Ben non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça. Pardon, Jérôme. Pardon, mais non. Mais c'est un film dont on peut pas dire du mal parce que évidemment, il est généreux. Voilà. C'est-à-dire que
non.
Maintenant, mais si.
C'est pas son
et là,
propos.
Il n'y a rien de généreux. Il est généreux parce que, en effet, c'est l'histoire d'une petite fille qui hésite, qui trouve son chemin. Il y a la condamnation de ce qu'il faut absolument condamner. Il y a l'éloge de ce qu'il faut absolument faire l'éloge de ça.
Elle ne fait pas l'éloge de cette danse qui est embarrassante.
Si, bien sûr, c'est la seule liberté qu'elle a, cette fille, de s'en sortir. Donc, je dis que c'est très généreux. Mais le problème, c'est qu'on confond actuellement la générosité et le talent. Et c'est un film pour la presse, d'une certaine façon. Mais c'est d'une façon pour la presse, parce que ça nous permet de nous rassurer en disant, voyez, on n'est pas que des cinéphiles, etc., on aime ça. En fait, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué. Moi, ça me rappelle absolument ces succès d'un soir ou de quelques semaines, par exemple Divine, il y a quelques années, que tout le monde a oublié, mais sur lequel
Divine.
On parle pour toi.
Et puis il y a un sujet, Pierre.
Ouais. Et Scheherazade, pareil, etc. C'est-à-dire que c'est des films sur lesquels, évidemment, tout le monde va se retrouver d'accord parce que c'est généreux, mais c'est mal fichu. Et au point de vue cinéma, c'est pas très bon. Voilà, je suis
Je suis pas d'accord.
Je suis presque d'accord avec Pierre. Oui, c'est sympatoche, comme tu dis. Elle est mignonne, cette petite gamine là. Mais est-ce que c'est passionnant là de la voir coincée entre les traditions de sa famille et ce twerk que j'ai
trouvé. C'est intéressant parce que c'est une réalité.
Oui, mais le film ne traite pas vraiment le sujet.
Il
nous laisse un peu en plan, et je vois pas très bien où ça veut en venir. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette gamine? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il y a un petit peu de cinéma.
Aide-moi, s'il te plaît.
J'arrive.
Alors,
allez.
Xavier.
J'enfile mon costume moulant de super-héros et je viens. Charlotte, même si tu n'as pas besoin d'un super-héros pour t'en sortir divinement.
Flash Gordon.
Elle contredit un adage qui veut que quand on embrasse trop, on mal étreint, selon le vieux dicton. Eh ben non, justement, la réalisatrice, elle embrasse énormément de sujets, comme l'a très bien souligné Charlotte, et elle réussit à peu près tout. Qu'elle ne réussisse pas tout, je m'en fous, c'est un premier film, il y a une vraie envie, en tout cas, d'en découdre avec et son sujet, et la matière cinématographique, et la mise en scène, et elle y arrive régulièrement, souvent, de façon très rassurante sur son avenir. Je pense qu'on a un vrai auteur, une vraie autrice, en tout cas. Je trouve qu'elle compose autour de ces personnages. Si ça n'était que l'histoire, effectivement, de cette gamine qui veut approcher un groupe de jeunes filles très dénudées pour dire quelque chose sur l'hypersexualisation d'une certaine catégorie d'adolescents,
même l'obscénité, on peut dire, parce qu'il y a des mots obscènes.
Et en plus, c'est la petite jeune fille coincée quelque part qui va leur donner les gestes les plus osés, les plus outranciers.
Mais elle traite très très bien la cellule familiale.
Et qui va remplacer l'une d'elles pendant ce fameux concours.
Si ça n'était que ça comme sujet, Pierre aurait peut-être raison parce qu'il y aurait un côté démonstratif. Mais sauf que tu n'as pas regardé le film entièrement, ou en tout cas tu as mis des œillères qui t'ont empêché de voir les personnages secondaires. Le petit frère, qui est remarquablement écrit, moi qui est un personnage qui me touche beaucoup. Il y a une scène au ralenti qui est très drôle, où elles ont fait du shopping et elles balancent comme dans une publicité les objets qu'elles ont achetés, les vêtements qu'elles ont, elles les balancent. Et lui derrière, toujours au ralenti, avec un grand sac, il ramasse tout ce que les filles ont jeté par terre. Et je trouve que c'est une manière de conclure cette petite scène onirique de manière extrêmement drôle sans se prendre au sérieux. Il y a la tante, ce personnage en tout cas qu'on appelle tante, qui règne comme ça sur toutes ces femmes, sur toutes ces mères, et qui ne voit pas la douleur de la mère de la jeune fille, qui est désespérée de voir son mari revenir avec une autre épouse.
La scène de la fin avec le père qui revient.
Et qui revient. Et elle aurait pu se casser à la gueule régulièrement, justement, dans les fils de ses bonnes intentions, parce que ce ne sont jamais des bonnes intentions. Et c'est pour ça qu'elle s'en sort Non, puis elle a vraiment envie de dire quelque chose. La scène de la robe qui saigne.
C'est ce que j'allais dire. Elle se casse même pas la gueule quand elle fait une incursion dans le monde fantastique.
Elle y arrive complètement.
Affreux, la robe qui saigne.
Non, pas du tout.
Mais
pas
c'est nul.
Je trouve qu'elle est dans son sujet.
C'est généreux encore une fois.
Mais non, parce qu'elle ne cautionne à aucun moment l'hypersexualité de ces gamines-là. Enfin, en tout cas, la manière dont elles se montrent au monde. Et puis, c'est un vrai film, comme l'était le film de Siama, d'ailleurs, La naissance des pieurs, sur comment je trouve ma place, quel groupe je vais essayer de rejoindre coûte que coûte pour exister malgré l'emprise familiale, malgré moi, malgré l'hypocrisie ambiante. Non, c'est un film à découvrir.
C'est mignonne, c'est le premier film de Memouna Doucouré. Quand vous voulez intervenir ici dans le public, vous n'hésitez pas surtout à lever la main. Voir le jour, le troisième film.
Attendez, il y a une demoiselle, pardon.
Oui, le micro vient vers vous.
J'ai vu Mignonne à deux reprises. Premièrement, avec un groupe de jeunes filles de 10 et 13 ans qui étaient juste répugnées par le film. Alors peut-être que je suis une plouque.
Répugnées ?
Répugnées. Elles en sont sorties avec un profond malaise. Et pourtant, c'était le cœur de cible de ce film.
Ouais.
Pourtant, j'habite en banlieue. Je suis issue d'une famille africaine, musulmane. Pour moi, je n'ai pas compris l'intérêt de ce film et le projet. Parce que cette hypersexualisation et ces scènes qui miment un coït, je ne vois pas en quoi ça fait progresser la réflexion sur l'hypersexualisation des petites filles. Et le cliché sur la famille noire, africaine, musulmane, voilà. Donc je vous laisse réfléchir sur mon opinion qui n'est que la mienne.
Mais
et voilà.
Qui est aussi importante que celle des critiques. Merci pour votre intervention. En tout cas, d'autres réactions ? Non. Eh bien, on passe à Voir le jour. Le troisième film de Marion Lenne, vous savez, Un cœur simple, à cœur ouvert, avec Sandrine Bonner, Brigitte Rouen, Aure Attica, Sarah Stern, Kenza Fortas, adapté du roman Chambre 2 de Julie Bonny. Et Sandrine Bonner, c'est Jeanne. Elle travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Si je dis qu'elle est en sous-effectif et en perpétuel flux tendu, ça frôle le pléonasme, évidemment. Jeanne est par ailleurs une mère célibataire qui vit avec sa fille de 18 ans, Zoé, l'excellente Lucie Faguedet, laquelle s'apprête à partir faire ses études à Paris. Et lorsqu'un drame survient à la maternité, une femme qui attendait des jumeaux perd l'un des deux, et que la responsabilité de Jeanne de permanence ce soir-là est engagée, c'est tout le passé de cette ancienne chanteuse de rock qui ressurgit. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'on voit Sandrine Bonner tenir une guitare. J'ai trouvé l'aspect hospitalier et ses infirmières surexploitées très bien traitées, très justes. La trame de la fiction reste pour moi un mystère, tellement je la trouve maigre, mais vous allez peut-être me l'expliquer, Eric.
Bah, tu n'as pas tort, il faudrait sortir une séquence sur deux, parce que l'aspect hospitalier est très réussi, c'est toutes ces infirmières, ces médecins, ça, on y est vraiment. Mais alors, tout ce qui concerne la vie intime de l'héroïne est complètement raté et navrant. Là, cette ancienne rockeuse à qui il est arrivé des malheurs, ça, mais c'est tellement maladroit et mal foutu. Ah, avec sa pauvre fille là, qui veut savoir d'où elle vient, ce que faisait sa mère. Et c'est vraiment un film très très bancal. Il faudrait faire deux séances, une avec toute la partie hospitalière et une avec la partie intime, et on ne serait pas obligé d'aller voir la deuxième. Mais c'est étonnant à ce point-là. Ça, c'est de...
Ce qui fait d'ailleurs que moi je l'avais vu avant l'été en projection de presse, et j'avais presque, au moment où je préparais mon résumé, presque oublié tellement le récit fictif disparaît.
Ah oui, et balourd, elle ne sert pas à grand-chose, finalement, alors que toute la partie hôpital est vraiment une réussite. Et Bonner est parfaite là-dedans.
Pierre.
Ben, je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que c'est vraiment le cas typique d'un presque un reportage. Et toutes les actrices qui jouent les infirmières...
Elles sont très bien.
Elles sont magnifiques, toutes, mais vraiment toutes. Et puis alors là, après, il y a Sandrine Bonner, ex-roqueuse. Déjà, moi, j'y crois moyen, en plus.
Ben, surtout quand on a droit au morceau.
Ben oui.
Voilà. Ensuite, elle est jouée jeune par une actrice qui ne ressemble pas du tout à Sandrine Bonner. Donc, c'est Sandrine Bonner sans Sandrine Bonner.
Oui, d'ailleurs, on ne comprend pas que c'est elle.
On comprend. Parce qu'elles sont tellement différentes qu'on ne comprend pas. Il y a la fille qui, d'abord, est furieuse, puis ensuite, elle aime beaucoup tout ça, Mélie Mélo. Enfin, non, voilà, vous l'avez dit, c'est dommage parce que Marion Lenne a une vraie sensibilité qu'on avait vue dans Un cœur simple, que j'avais beaucoup aimé.
C'était très bien.
Très bien. Oui. Et là, la fiction, ça lui va pas du tout, quoi.
Xavier.
Je suis hélas totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a deux films. L'un dont on pourrait tout à fait se passer, qui en plus, balourd, même en termes de mise en scène, c'est-à-dire ce rapport conflictuel avec la fille qui va peu à peu s'apaiser au fur et à mesure que la mémoire va revenir. Alors la mémoire qui revient, c'est les bords de mer, le ressac, hein, au cas où on n'aurait pas compris, petite image à la fois d'eau et de retour en arrière et en avant. Et puis le liquide amniotique placentaire qui est illustré lourdement par soit la piscine, soit l'aquarium. On pourrait peut-être passer à autre chose c'est quand même fou. En 2020, faudrait peut-être arrêter un tout petit peu ces facilités-là. Et en contre-champ, on a un film sec, et en même temps très écrit. Il y a un moment où Brigitte Rouen raconte l'accouchement, le shoot d'endorphine que subit un enfant et dont il ne faut pas le priver. Et c'est un truc à la fois clinique et même temps romanesque de la manière dont Brigitte Rouen, qui est une immense comédienne, l'interprète. Donc elle arrive à créer du romanesque dans vraiment le clinique, le quotidien, les aspérités. C'est un film quand même qui dénonce aussi les sous-effectifs. Hein. Alors je sais qu'on va pas dire mal de Roselyne Bachelot, mais qui est un petit peu à l'origine aussi de la carte hospitalière et du fait qu'il y ait moins de maternité en France. Faudrait pas l'oublier non plus complètement.
On salue notre ministre de la Culture.
Mais je la salue volontiers, mais j'ai l'impression que la mémoire quand même fait défaut à beaucoup de gens. On a oublié tout ce qu'elle avait fait sous Sarkozy, dont effectivement cette carte hospitalière qui a malmené la distribution des maternités.
Et c'est un ancien élève en médecine qui parle, c'est-à-dire.
Mais non, mais en plus, vraiment, il faut se rappeler de ça. Enfin, je veux dire, elle avait eu des déclarations. Bon, bref, on va pas faire le procès.
Mais elle joue quoi dans le film?
Non, elle ne joue pas. Mais tout le cœur du sujet est là.
La roqueuse jeune.
Et l'autre sujet, c'est qu'effectivement, ils ont créé un truc, c'est-à-dire que les infirmières et les médecins ne sont plus du tout solidaire. C'est un médecin qui porte le rôle économique, qui dit vous n'avez qu'à vous débrouiller, vous n'avez qu'à vous démerder avec les non-moyens que je ne vous donnerai pas de toute façon, et elles sont là solidaires. Ça donne une scène de fin qui aurait pu être casse-gueule, que je ne raconterai pas, et qui en même temps, eh ben, je trouve, cristallise tout.
Cela dit, sur le sujet, moi j'en apprends plus dans les films de Thomas Lilti, sur le monde médical et hospitalier.
Nous sommes d'accord, mais ce monde de femmes que sont les infirmières, elles le disent à un moment, on est sous-payé parce que c'est un métier de femme, avec un grand point d'interrogation, et ce grand point d'interrogation, il mérite effectivement d'être entendu. Donc rien que pour ça, le film mérite quand même un déplacement.
Charlotte.
Bah oui, je vous rejoins, évidemment, le film s'égare complètement dans les flashbacks et la partie passée et intime de Sandrine Bonnaire. En revanche, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir à quel point elle réussit une partie et elle en rate une autre, quoi. Et cette partie réussie, à savoir le quotidien.
Le problème, c'est que c'est tout le film qu'on doit voir.
Et oui, alors faut accepter un demi-échec pour voir aussi une grande réussite. Et ce quotidien d'une maternité, donc à Marseille, je trouve qu'elle arrive à y montrer toutes les émotions qu'il y a dans un tel lieu, c'est-à-dire beaucoup de joie, mais aussi des drames, l'épuisement, le combat permanent contre le manque de moyens. Et puis, Xavier, tu citais Brigitte Rouen, mais je vais quand même rajouter Horatica et Kenza Fortas, parce qu'on les a pas cité, et que toutes les actrices qui épaulent ou qui secondent Sandrine Bonnaire dans la maternité sont absolument épatantes. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est y rester, en fait. C'est ne pas partir dans le passé.
Voir le jour, le film de Marion Lenne, des réactions peut-être dans le public, non? Des infirmières, des Marseillais, des noms.
Les amis de Roselyne
Bachelot. On passe à Belle-fille de Méliane Marcadji. On va aller un peu plus vite parce que sinon on ne pourra pas tout évoquer. Et là, on peut aller vite. C'est Louise qui est donc jouée par Alexandra Lamy qui découvre que son mari la trompe et qui plaque tout pour aller en Corse où elle passe une nuit avec un inconnu qui est joué par Thomas Dutronc, qui d'ailleurs signe en prime la musique du film. Je ne sais pas s'il a eu deux cachets.
Mais il faut rester jusqu'au bout pour le savoir.
Mais une seule nuit, tu veux dire au générique?
Ouais.
Mais une seule nuit, puisque au petit matin, il ne se réveille pas, ce qui est une manière de dire qu'il est mort. Voilà, donc devant la mère de ce dernier, Andrea, qui est donc jouée par Miu Miu, Louise va devoir endosser donc ce rôle de la belle-fille, et bien sûr de la belle-fille idéale. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout, enfin presque l'essentiel, Pierre.
C'est-à-dire qu'avec un sujet comme ça, un auteur comme Feydeau aurait pu faire quelque chose de magnifique, hein, parce qu'il y a plein de quiproquos, il faut cacher la vérité à une personne, il aurait pu faire
c'est
un
vrai, chat. D'ailleurs, oui.
Mais oui, malheureusement, les scénaristes sont pas Feydeau.
Ni la biche.
Voilà, ni la biche, la metteur en scène non plus. Alors moi j'aime bien les interprètes parce que j'aime bien Jonathan Zakaï, que je touche toujours très bien, et puis Alexandra Lamy, que j'aime bien. Mais alors, c'est ni fait ni à faire, c'est d'une lourdeur, c'est lent, c'est long, c'est pénible. Alors moi, personnellement, si j'étais corse, toute l'équipe du film est persona non grata, parce que aligner les clichés sur les Corses de cette façon-là, le pompon étant Alexandra Lamy, à un moment donné, métamorphosée en veuve corse qui va vers l'église, c'est inouï de conneries. Quand même.
Éric.
Ah, j'aimerais bien pouvoir retourner en Corse. Alors, c'est embêtant de dire du mal de ce film. Mais c'est complètement.
Alors, si tu peux dire du mal du film, tu pourras retourner en Corse.
Complètement raté, oui. Ça aurait pu être very bad trip, sauce polyphonie corse, mais c'est, rien ne marche. L'image est assez belle, mais c'est totalement invraisemblable.
Oh non, oh non, ça va. C'est ce qu'il y a de pire, Eric.
Ça va, mais on se dit que si l'écran était tout petit et que c'était Mimi Mati à la place d'Alexandre Alamy, ce serait très bien pour un samedi soir à la télévision. C'est totalement invraisemblable, ça n'en finit pas. Il y a évidemment un sculpteur homosexuel qui joue le copain. Et le plus malin dans l'histoire, c'est quand même Thomas Dutronc qui disparaît au bout de 5 minutes. C'est ce qu'il a de mieux à faire.
Et pour cause, il est mort.
C'est son premier et son dernier rôle aussi.
Mais non, c'est pas son premier rôle. Ah bon, tout le monde dit que c'est son premier rôle.
Il a joué dans un truc de Soral.
D'Alain Soral, absolument. Exact, ouais, quand même, il s'est commis au prix de cette enflure. Film d'Alain Soral, le seul et unique film d'Alain Soral à ce jour.
On parle du même.
On parle du même Alain Soral. Moi, il m'avait écrit une lettre d'insulte parce que j'avais osé dire que son film était une merde, avec Saïd Tagmaoui d'ailleurs. Et effectivement, Thomas Dutronc qui ne s'en vante pas. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, c'était un scoop pour moi.
Oui, ça, je ne t'invite pas à regarder le film, c'est une horreur.
Non, j'ai aucune envie. Charlotte ?
Alors, moi, quand même, je trouve que c'est un bon scénario de comédie. Il y a plein de quiproquos, de malentendus, comme Pierre disait. Le scénario fonctionne assez bien. Le problème, c'est qu'il est totalement alourdi par une mise en scène qui est extrêmement pataude et sans finesse. Alors, l'image, je la trouve très laide, c'est une espèce d'image télé numérique avec des couleurs criardes, c'est affreux. Il y a des gros plans improbables, par exemple, je sais pas, quelqu'un fume et écrase sa cigarette, vous avez un très très gros plan sur la cigarette qu'on écrase, enfin c'est une espèce de point de montage pour essayer de sauver la séquence, ça n'a aucun, enfin c'est pas possible. Du placement de produit, en veux-tu, en voilà. Enfin bref, en termes de mise en scène, il y a vraiment rien à sauver. Après, quand même, Alexandre Alamy et Miu Miu, moi je trouve que c'est un duo qui est chouette, qui fonctionne. Alexandre Alamy, elle est tellement délicieuse et pétillante, donc on peut se dire un samedi soir quand ça passera à la télé, pourquoi pas.
Xavier.
Bon, tout a été dit de toute façon. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Charlotte. Une très bonne idée de comédie, effectivement, mais le scénario la développe tellement maladroitement. Ça commence très vite. On se dit chouette. Elle a compris qu'il fallait aller vite. Enfin, tu vois, elle découvre que son mari l'a trompée. Elle a piqué dans la caisse les billets pour aller en Corse, tout ça. On se dit chouette. Il va y avoir un petit rythme. Mais après, c'est interminable. C'est encore plus interminable. Mais c'est Corse, donc c'est normal. C'est encore plus lent. Une fois qu'elle arrive chez Miu Miu.
Vous écrivez directement à Xavier.
C'est pas très veuve Corse, quand même, hein. Ou alors, elle a juste lié Astérix en Corse pour ça.
Alexandra Alamy, quand elle se déguise en veuve,
c'est pitoyable.
Oui, mais même toi, ça aurait l'air corse.
La fin est inexistante, c'est-à-dire qu'on sent que la réalisatrice se dit « Oh là, faudrait peut-être conclure une heure et demie, c'est bon, on y est arrivé avec des plans totalement inutiles, Charlotte, tu as 100% raison. » Et la fin, toc toc, comme ça, allez, au revoir, on se fait la bise, on se réconcilie. Heureusement qu'il y a le trio des comédiens, effectivement, Zakaï, Lamy et Miu Miu, qu'on adore. Je suis pas sûr que ce soit le film le plus important de leur filmographie, ni de notre vie de critique.
Belle-fille de Méliane Marcadji, est-ce qu'il y a des interventions des Corses qui voudraient intervenir? Non.
Nous passons
à Family Romance, LLC, un film américain tourné au Japon par l'Allemand Werner Herzog, avec Yuichi Ishii et Mahiro Tanimoto. Un film court, 1h30, qui s'ouvre sur un air de Schubert, et à l'époque sacro-sainte, toujours très belle, des cerisiers en fleurs, par la rencontre insolite à Tokyo entre une jeune collégienne de 12 ans, c'est Mahiro, et l'homme, donc Yuichi Ishii, qui se présente comme son père et qu'elle n'a jamais vu. Elle ignore, Mahiro, que cet homme n'est pas du tout son père, mais un acteur de la société Family Romance, une agence, comme il y en a, paraît-il, beaucoup au Japon, chargée de louer deux faux membres d'une famille ou des amis imaginaires. Une manière, paraît-il, de soigner la solitude, c'est ce qui est dit par Herzog dans le dossier de presse, dont souffrirait la société japonaise. Bref, c'est la raison pour laquelle le film est tourné uniquement avec des noms professionnels, à commencer par ton ami Eric Yuichi Ishii, qui dirige vraiment l'agence Family Romance, laquelle compte près de 800 acteurs. Et c'est vrai que tout ce côté-là, moi, m'a non seulement intrigué, mais passionné, parce que je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, ça ferait un documentaire formidable. Pourquoi en faire une fiction ? Mystère absolu, Xavier.
Moi, ça me touche parce que tout le monde sait que je fais un peu la même chose. Je vous loue ce soir pour me faire croire que je passe au masque et la plume. Vous n'êtes pas les vrais Charlotte, les vrais Jérôme, les vrais Eric et les vrais Pierre, et le public aussi, c'est des copains qui viennent, quoi. Ça me donne un semblant de vie sociale, quoi. Je suis contente. Donc, évidemment, le film me parle. Non.
Tu vas très mal.
Je vais très mal. Je vais très mal.
C'est malheureux.
Le confinement m'a beaucoup heurté. Non, mais ceci mis à part, je suis tellement d'accord avec toi. Et quand on lit le dossier de presse et qu'on découvre que ce personnage, donc, vit depuis pratiquement 11 ans avec certaines familles depuis 2009. Il joue un rôle à l'intérieur d'une famille. C'est ce qu'on aurait voulu voir, l'évolution au long terme de ce rapport très étrange, totalement biaisé, mais en même temps très fusionnel entre un acteur qui joue un rôle et des gens qui savent qu'il joue un rôle et qui, effectivement...
Pas tous. Certains ne savent pas que ce sont des acteurs engagés.
Je pense qu'au bout de 2009, 11 ans, ils ont peut-être compris. Mais en plus, le film assume et admet qu'effectivement, il y en a qui ne sont pas dupes de ce qui se passe et qui
certains
jouent le jeu. Ça aurait fait un doc absolument formidable. Il reste néanmoins dans ce Salmigondi, parce qu'il y a des intrigues secondaires qui ne servent à rien. L'hôtel robotique, là, j'ai pas très, très bien compris ce que ça venait faire là. Et la femme qui gagne 180 000 dollars à la loterie, je vois pas très bien ce que ça nous raconte. Mais il y a quelque chose, effectivement, sur une société extrêmement virtuelle, totalement dénuée de sentiments, très froide, qui est le Japon. Ça aurait pu être plus subtil. Mais il se passe quand même régulièrement des choses en termes d'émotions qui, moi, m'ont capté.
Mais de penser que c'est un phénomène à ce point massif dans ce pays rend, je dirais, presque le... J'espère qu'un jour, quelqu'un va faire un documentaire pour aller vite.
C'est lui qui n'a pas voulu. Hein.
Oui, mais j'espère que quelqu'un le fera.
Oui, bien sûr.
Un jour, Pierre.
Bah oui, c'est pas très très bon, simplement. Non mais c'est simplement parce que en fait, pour une fois, je sais pas, ça m'a frappé, ça m'a rappelé beaucoup un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle La Belle Époque de Nicolas Bedos quand même.
Bah, il y avait même Famille à louer de Jean-Pierre Amélie.
Il y a Famille à louer bien sûr, mais je pensais à La Belle Époque parce que ça avait bien marché et c'est un peu ça quand même. Et alors là, on peut critiquer l'efficacité, la brutalité de Nicolas Bedos quand il fait, mais quand même c'est assez efficace. Tandis que dans le sujet là que Werner Herzog veut traiter, c'est tellement éparpillé. Et puis alors l'acteur est pas très bon, c'est-à-dire que
et pour cause il n'est pas acteur.
D'accord.
Mais quand, c'est non, mais son métier.
Je voulais dire le personnage qui arrive, qui voit la fille et qui dit voilà je t'ai reconnu, je suis ton père et qu'elle l'accepte. Alors parce qu'elle veut l'accepter. Je sais bien que c'est ça le projet de Werner Herzog, c'est-à-dire qu'elle a tellement besoin d'un père qu'elle accepte même si elle sait que c'est peut-être pas vrai, on ne sait pas. Et c'est peut-être assez. Et c'est, d'ailleurs ça redevient un peu ambigu. Le problème c'est que vraiment le film de Nicolas Bedos sur un sujet presque identique était quand même bien meilleur.
Eric,
ah bah je défie quiconque, s'il n'y avait pas son nom sur l'affiche, de deviner que c'est un film de Werner Herzog.
Oui, c'est d'accord.
C'est d'une mollesse, d'un inintérêt.
On est assez loin d'aguerrir la colère de
Dieu. Ah bah, exactement. Ah, oui. Oui, là, ça, pourtant, l'idée est quand même incroyable. Là, ces gens qui se font passer pour le père de la mariée alors qu'ils ne les connaissent pas, qui arrivent n'importe où. Mais il n'en fait rien du tout. Et le film est tellement mauvais que dès la première séquence, puisque ça se passe au Japon, on a droit aux cerisiers en fleurs. Non, mais c'est pas possible. Alors, si Herzog va tourner à Paris, ce sera sous la Tour Eiffel avec un béret et une baguette dans la première séquence. C'est tellement raté qu'on préfère presque la séquence dans l'hôtel robotisé où il y a même dans l'aquarium, c'est des poissons mécaniques qui se tortillent. Ça, c'est assez rigolo. Mais sinon, le film est d'une vacuité. Ça n'en finit pas. Ça dure 1h30. On a l'impression qu'on est en décalage horaire permanent. Et comme tu disais, l'acteur, on voit très bien qu'il est mauvais puisqu'il l'est pas. Et il faut dire, il est dirigé par quelqu'un qui était habitué à Kinski. Et là, on voit qu'il peut rien faire. Ouais.
Charlotte, quelques mots.
Parce que
on évoque encore deux films.
Alors très rapidement, c'est une matière incroyable et on se dit que c'était quand même du pain béni pour Werner Herzog qui excelle dans le faux documentaire. Il en a fait beaucoup. Et là, le film est extrêmement décevant parce que d'abord, le fait de tourner avec une petite caméra numérique en lumière naturelle. Alors c'est le projet, l'économie du projet, mais l'image est d'une laideur. C'est quand même, je trouve vraiment pas très agréable à regarder. Et alors qu'il a cette matière génial à savoir qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est la fiction, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et presque la beauté du mensonge élevée au rang d'art par ce personnage, il n'en fait absolument rien. Donc oui, c'est décevant, c'est de l'ennui, et vivement que quelqu'un s'empare de ce sujet autrement.
Family Romance, c'est Werner Herzog. La femme des steppes, le flic et l'œuf, ça c'est mon petit chouchou du jour. Un film tourné en Mongolie extérieure du chinois Wang Kanan, à qui on doit notamment ce très bon film qui était Mariage de Touya. Ici, tout commence la nuit, on est dans la steppe. Un vieux 4x4 de la police roule au milieu. On voit dans les phares des chevaux sauvages sur une terre où seraient enfouis des œufs de dinosaures. Et alors, les phares, tout d'un coup, éclairent un cadavre de femme qui est dénudée. Le chef des flics, qui était bientôt retraité, Là, c'est un jeune flic de 18 ans, le soin d'empêcher les loups de dévorer la victime. Donc, il le laisse avec le cadavre. Et il charge une bergère qui, comme Murat, ne se déplace que à chameau et armé. Il charge donc la bergère de veiller sur celui qui veille sur le Maccabée. Vous me suivez, hein? Et puis, le jour se lève, les policiers viennent chercher le cadavre et l'enquête, qui n'a, à mon avis, aucun intérêt, reprend son cours, parce que le sujet, c'est pas évidemment le polar. C'est plutôt un film sur la réincarnation, sur la steppe, avec une image magnifique qui est signée du français Aymeric Pilarski. Quelques mots sur ce film, Xavier ?
C'est une petite merveille, c'est un vrai bonheur de cinéma, parce que vraiment tout repose, ou pratiquement, sur la mise en scène, sur ce découpage de l'espace. Il y a une ligne d'horizon qui change incessamment et qui raconte énormément.
Avec un ciel plus important que la Terre.
La plupart du temps, oui, mais voilà, il évolue, c'est jamais systématique. Et ton résumé était très juste, parce que totalement impossible à faire, c'est que c'est un film qu'on ne devine jamais dans quelle direction il va braquer. Un petit peu comme au début, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les phares du cinéaste, c'est clair, et puis il suit des pistes. Alors effectivement, la piste policière, c'est un MacGuffin, c'est quelque chose qui ne semble ne mener à rien. Et en même temps, il y a des choses très, très, très belles avec la scène de dissection du cadavre, par exemple, que je trouve absolument réussie. Voilà, c'est un film qui surprend toujours, alors que sa lenteur, son rythme comme ça, un petit peu amorphe, pourrait laisser penser qu'on devine où il va aller. Pas du tout, il nous surprend, il nous émeut, c'est d'une poésie absolue. Et encore une fois, c'est le pouvoir de la mise en scène sur lequel repose toute cette réussite. C'est superbe.
Très belle et très pudique scène d'amour près du feu de bois.
Ah mais il y a une scène absolument magnifique, le gamin qui vide son téléphone portable en dansant toute la nuit autour du cadavre, sur des chansons à la fois traditionnelles, pop, enfin voilà, mais constamment des trouvailles, ça pourrait être des gimmicks et ça n'en est jamais parce que ça construit vraiment les personnages dans leur absence de dialogue, ils parlent très peu parce que ce sont des gens qui parlent très peu, donc tout est réussi là-dedans.
Charlotte
Je crois que c'est le plus grand voyage qu'on peut faire, le plus dépaysant possible, le moins cher, quoi, au prix d'un ticket de cinéma.
Y compris à la frontière de l'absurde.
Ah, mais complètement. Mais là, au prix d'un ticket de cinéma, on va dans un monde extraordinaire. Alors, la qualité de l'image, je vais pas revenir dessus, mais elle est vraiment totalement démente. C'est-à-dire, vous avez un ciel qui vous bouffe les 4/5 de l'écran.
Oh oui, même les 9/10
parfois. Une ligne d'horizon. Et tout le début du film, même une grande partie, tous les personnages, on les entend très distinctement, mais alors, ils sont pas plus hauts qu'un grain de riz. On les voit vraiment que tout petit, on distingue même pas les visages et peu à peu le film va se rapprocher d'eux jusqu'à filmer cette bergère qui devient un peu l'axe central du film et c'est le portrait d'une femme terriblement indépendante. C'est génial quand son ex veut constamment la reconquérir et elle le balaye gentiment.
Cela dit, c'est une forte femme.
Oui, je te sonnerai quand j'aurai besoin d'un mec. Merci, passe là. Je pensais un peu à Karus Maki, parfois, dans le côté un peu absurde et poétique, sauf que là, c'est dans la steppe. Et tu parlais de cette scène dans la nuit, mais il faut imaginer la beauté de l'image de ce flic qui va danser la nuit à contre-jour avec juste un petit feu de bois sur Love Me Tender. D'Elvis
Presley. Vous imaginez la tête d'Elvis.
Ah non, mais c'est dément. Et donc, c'est vraiment un film qui est à la fois contemplatif et terriblement envoûtant, mi-fable, mi-documentaire.
Sur une terre, je ne sais toujours pas, où seraient enterrés des œufs de dinosaures quasiment tous les 5 mètres.
Avec une réflexion poétique sur le cycle de la vie, quoi, tout simplement.
Eric.
Non, c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime, c'est de la beauté à l'état pur. On comprend pas tout. C'est assez long, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde.
Et ça dure 1h30, hein?
Ah oui,
ça dure 1h30.
On est plongé là-dedans, mais c'est l'image, c'est avec ces ciels comme dans les tableaux de Dali, c'est cette steppe qui est comme un vertige horizontal, comme disait Drieu de La Pampa. Mais c'est une réussite totale, parce qu'on comprend pas tout, l'histoire policière, on s'en désintéresse assez vite, et tout est beau, la nuit d'amour.
D'ailleurs, même le pseudo-criminel, il sait même pas ce qui lui arrive.
Le pseudo-criminel, le flic qui est censé mener l'enquête n'avait pas compris que sa femme était amoureuse d'un autre depuis des années, donc on est sûr qu'il va jamais résoudre le cas. Et puis le pauvre cadavre, tout le monde le laisse sur la table d'autopsie ou dans le champ. Non, c'est un film étonnant. C'est à la fois un film policier, une histoire d'amour, un adieu à l'innocence.
Un portrait de femme.
Et c'est de la poésie pure.
Et dans un lieu improbable. Ouais. Pierre,
vous avez tout dit. Ce qu'il faut peut-être juste rajouter, c'est que c'était vraiment une étude sur le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ouais. C'est sûr, les plans sont longs, mais c'est très important qu'ils durent aussi longtemps avec l'espace et le temps qui ont une espèce d'osmose absolument magnifique. Et puis ça rappelle un petit peu, moi c'est un cinéma que j'aime beaucoup, vous savez, c'est le cinéma de Nuri Bilge Ceylan.
Absolument, on pense parfois à lui.
À lui,
la scène... Moins bavard, honnêtement moins bavard.
Et en moins long, parce que...
Et un peu plus drôle. La scène de dissection, c'est quand même totalement ça. Et puis ce qui est très beau aussi dans le film, c'est qu'on apprend peu à peu des choses. Par exemple, le flic qui cherche sa retraite parce qu'il n'a rien fait pendant 40 40 ans, il se passe pas grand chose là-bas. Comme... Et donc, et là, et puis le passé de cette femme et de, du mec là, qu'elle renvoie de temps à autre sont dévoilés peu à peu, comme ça, par petites touches délicates. C'est vraiment très bien.
Formidable ce film, La femme des steppes, le flic et l'œuf du chinois Wang Kanan. Rapidement pour finir, The Perfect Candidate, le quatrième film de la saoudienne Haifa Al-Mansour, première femme à être devenue réalisatrice en Arabie Saoudite, même si elle vit aujourd'hui à Los Angeles, avec Mila Al-Zahrani dans le rôle de Mariam, une jeune médecin qui travaille dans une clinique d'une petite ville d'Arabie Saoudite. Et qui, au prétexte qu'elle est une femme, se voit interdire de prendre l'avion pour se rendre à la capitale, Riyad, afin de se présenter à un poste de chirurgienne dans un grand hôpital. Comme elle est célibataire, il lui faudrait en effet pour voyager une autorisation signée de son père. Je rappelle d'ailleurs que c'est seulement depuis 2018 que les femmes sont autorisées à conduire dans ce pays. Bref, Mariam, qui porte le voile d'ailleurs et qui respecte plutôt les traditions, décide de se présenter aux élections municipales de sa ville, d'affronter un monde patriarcal. Et je vois que la scène où, sous une tente, elle fait acte de candidature devant un parterre d'hommes, exclusivement d'hommes, à la fois goguenards et quand même un peu persifleurs, et d'anthologie, film moins critique d'ailleurs qu'on pourrait le croire sur ce pays, dirigé par le prince héritier Mohamed Ben Salman, alias MBS, qui semble d'ailleurs plutôt vouloir montrer une société en évolution qu'une société qu'elle condamnerait. Pierre, quelques mots.
C'est un film vraiment que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Parce que c'est un film féministe, mais au bon sens du terme, où le rôle de la femme est vraiment... Et en plus, sans caricature. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un scénario qui ressemble presque à un scénario américain. On dirait presque Erin Brockovich de Soderbergh. C'est-à-dire qu'elle est mise en difficulté par l'administration de le faire, et elle se lance là-dedans, et elle va jusqu'au bout. Et c'est un film très tendre aussi sur les rapports entre les sœurs, qui est magnifique, et puis le problème de la mère, là, que le père n'a jamais oublié, lui s'est réfugié dans la musique, et elle, et le souvenir de la mère...
Mais il est musicien.
Il est musicien, mais la musique lui a permis certainement de s'enfuir des réalités du pays, en quelque sorte, et je trouve que la mère qui influence la vie de ses sœurs, je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment un très 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 joli film.
Éric ?
Xavier va dire que c'est encore un film sur Roselyne Bachelot, mais non, en Arabie Saoudite.
Ben non, puisqu'il est réussi, donc elle n'est pas dedans.
c'est l'histoire d'une femme médecin qui est obligée d'entrer en politique, mais pour un truc complètement absurde, pour goudronner la route qui va à l'hôpital. Oui. C'est uniquement ça.
Oui,
c'est ça qui est marrant.
Oui.
Et tu as raison de parler de Brockovich, c'est un petit peu moins nerveux et moins réussi. Mais on voit quand même ce qui se passe dans ce pays. Hein. C'est assez intéressant de voir le clip.
Et en même temps qui évolue, parce que l'idée qu'elle se présente, par exemple, au municipal, était inimaginable il y a quelques années. Hein.
Puisqu'on voit bien qu'à l'hôpital, les hommes ne veulent pas être examiné par elle, et que dans les réunions publiques, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, dans les défilés de mode aussi, et elle, son spot politique, elle le fait entièrement voilé. Donc c'est pas inintéressant. Je trouve ça un petit peu moins bien que le Vajda ou Vajda, je sais plus comment on prononce. Là, l'histoire de la gamine qui voulait un vélo, là, elle veut un poste, elle veut sa dignité, mais c'est un film très très intéressant.
Charlotte.
Mais ce qui est très intéressant et original, c'est qu'elle nous montre le quotidien aussi de la middle class saoudienne, et donc on est très loin des fantasmes qu'on peut avoir, nous occidentaux, à savoir soit les millionnaires, soit l'extrême pauvreté.
C'est un peu plus que middle class, hein, parce qu'elle est quand même médecin, elle a quand même des moyens qui n'ont pas les autres. Hein.
Certes, mais enfin, elle roule pas sur l'or comme on peut le fantasmer en Arabie Saoudite. Et donc, elle nous montre un quotidien, une société que finalement on connaît très peu ou très mal. Et par ailleurs, elle choisit comme héroïne une femme qui est pas du tout une passionnariat du droit des femmes. Elle est plutôt traditionnelle, elle est conservatrice, et donc ça donne effectivement plus de complexité au film. Par ailleurs, la réalisatrice porte un regard, je trouve, assez bienveillant sur les rôles masculins, donc ce qui l'empêche de que ce soit le père ou le petit ami, donc ce qui empêche de tomber dans le manichéisme. Alors certes, ça peut manquer un peu de nerfs et d'audace, mais imaginons qu'il y a encore 2 ans, le cinéma était interdit en Arabie Saoudite. Donc là, c'est déjà quand même extrêmement audacieux de tourner ce film là-bas et de leur montrer.
Xavier ?
Tout a été dit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur un tel sujet, il aurait pu faire un drame très poisseux, très larmoyant, très regardé comme une somme malheureuse, et pas du tout. C'est un film qui a un petit côté comme ça, pugnace, rentre dedans. Il y a des scènes même drôles. Elle emprunte les codes du feel-good movie d'une certaine manière.
Oui, il y a beaucoup d'humour.
Le clip de campagne qu'elle tout, on n'avait que 3 voix, puis 4, et puis vraiment, elle arrive à se moquer des choses sans se moquer des personnages. Le père, effectivement, est très réussi à distance, comme ça, un peu égoïste aussi à sa manière. Il a laissé ses filles vivre libres, mais en même temps, il n'est pas là quand elles en ont besoin. Non, non, c'est un film, effectivement, peut-être un petit peu mou en termes de mise en scène, mais qui s'est quand même très très bien articulé autour d'un film plutôt positif, le quotidien effectivement de ces trois.
Avec un propos politique nuancé, ce qui n'était pas forcément tout à fait évident à faire. The Perfect Candidate, c'est donc le film de la Saoudienne Haïfa Al-Mansour. Allez, rapidement, vous me citez quelques mots d'un conseil d'un film que vous avez particulièrement aimé, Xavier.
Alors, je me lance Never, Rarely, Sometimes, Always. C'est le deuxième film de l'américaine Eliza Eastman. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va quitter un matin la maison natale pour se rendre à New York au planning familial pour tenter d'avorter puisqu'elle est mineure et qu'elle est enceinte. D'où le titre, effectivement, qui sont les 4 items qui lui sont proposés quand elle est reçue au planning familial. Est-ce que vous avez des rapports? Jamais, de temps en temps, rarement et tout ça. Et c'est un film très sobre, très dans la lumière comme ça new-yorkaise hivernale, qui est indispensable aujourd'hui quand on sait le sort qui est réservé aux femmes au planning familial aux États-Unis dans les Amériques de Trump. Et en même temps, c'est un film sur le... C'est pas un combat, c'est un quotidien, c'est compliqué effectivement pour ces jeunes filles dans ce pays qui devient de plus en plus moralisateur. C'est un film sobre, c'est un deuxième film, on n'avait pas vu le premier, mais vraiment c'est à découvrir.
On peut le conseiller à Roselyne Bachelot ou pas
Oui. Bah, je sais pas, elle est ministre de quoi
Charlotte.
Moi, je vais vous parler de l'amitié toute naissante entre un petit garçon papouze et son poney Mustang Petit Tonnerre. Oui, Jérôme, me regarde pas avec ça. Ça parle de chevaux, tu devrais aimer ça.
Quelle faillotte.
Ben voilà. Non, mais Yakari, mais l'adaptation de la bande dessinée, donc en long métrage de cinéma, signé Xavier Giacometti et Toby Jenkel. Alors, certes, il n'y a pas une immense inventivité dans le graphisme, mais c'est un très joli scénario. Il y a un rythme de montage qui est totalement adapté aux enfants, avec la bonne dose d'humour. Et puis un message qui passe très bien dans les oreilles des petits spectateurs sur le respect des lois de la nature. C'était le coup de cœur de mon fils, 5 ans et demi.
Le conseil d'Éric.
Un livre, Un château pour Hollywood, d'Olivier Mine, l'animateur de télévision, qui avait déjà écrit une biographie formidable de Louis Jourdan, et là qui s'attaque au célèbre hôtel Le Château Marmont à Los Angeles. C'est chez Séguier, et c'est cette copie du château d'Amboise qui a abrité toutes les célébrités et toutes les turpitudes, puisqu'à l'époque, Harry Cohn, le patron de la Columbia, disait à ses acteurs, si vous devez faire des conneries, allez les faire au château Marmont. Et on voit défiler Nicolas Ray, Billy Wilder, Duke Ellington qui descendait là parce que à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'aller au Beverly Hills. Et c'est écrit de façon très, très pétillante.
C'est bien l'animateur de Fort Boyard?
Oui, oui, oui. Il est capable de formules comme une femme est une spécialiste du mariage, l'homme un simple généraliste. Et tout est écrit comme ça.
Pierre?
Un film mexicain de David Zonana, pardon, qui s'appelle Mano de Obra, main d'œuvre en quelque sorte. C'est l'histoire d'un ouvrier.
C'est bien ça.
Oui, c'est un ouvrier qui est tombé d'un échafaudage en construisant une villa, et son frère, voyant qu'il n'aura pas de dédommagement, décide de se venger à sa manière en occupant la maison. C'est très épuré, très bref, très cruel, très réussi. On pense un peu à Buñuel par moment. Voilà.
Très bien.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Il faut aller au cinéma, continuer d'aller en salle voir les films. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat et Éric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Cédric Châtelut, Sébastien Royer ainsi que Philippe Thibault pour une réalisation signé Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, où je vous attends très nombreux et très masqués, aura lieu le jeudi 3 septembre, donc au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour une émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parlera de la rentrée littéraire. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.